Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Aujourd'hui, j'accueille au micro du nid une jeune femme au parcours atypique. Barbara a 28 ans et a grandi dans un groupement religieux, les Témoins de Jéhovah. Elle nous livre son histoire et son enfance hors du commun. Bonjour Barbara, merci beaucoup d'être au micro du nid. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance ou du moins de ce que tu te souviens vraiment des premières années et ta relation avec tes parents qui, je crois, se sont séparés. À quel âge, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts, de ce que tu te souviens?
Alors, de ce que je me souviens, mes parents se sont mariés. J'étais pas encore née. Et ils se sont séparés. Donc, c'est mon père qui a demandé le divorce quand j'avais 1 an et demi. Du coup, j'en ai beaucoup souffert. J'étais très proche de mon père. À chaque fois que j'entendais toquer à la porte, je pensais que c'était lui. Et en fait, c'était pas lui. J'ai malheureusement pas eu beaucoup de relations avec mon père puisque pendant 1 an, en fait, il est parti et il m'a pas du tout adressé la parole. Et je pense que c'était dû. Aujourd'hui, j'ai pu en parler vraiment avec lui de tout ça. Ça fait des années que j'essayais de lui demander vraiment de m'expliquer concrètement pourquoi il avait eu cette réaction. Mais en fait, il s'était passé quelque chose avec ma mère qu'il n'avait jamais voulu me dire, qui a fait qu'il a tout plaqué, en fait, et dont moi avec, alors que j'étais pour rien. Du coup, après, mon père, j'ai commencé à le voir uniquement quand j'allais chez mes grands-parents, parce que ma mère, du coup, m'a éduquée jusqu'à mes 5 ans toute seule. Et mes grands-parents paternels ont pris la relève, et tous les mois, j'allais chez eux, je passais un week-end, et il n'y a que là, en gros, que je pouvais passer un repas avec mon père, juste à ces moments-là. Et ma mère, du coup, s'est remariée quand j'avais 5 ans. Et quand j'avais 2 ans, elle a rencontré les Témoins de Jéhovah. Du moins, ils sont venus toquer à sa porte. Et à ce moment-là, elle qui avait vécu une vie assez chaotique, si je puis dire, pour elle, c'était la vérité, en fait. C'était vraiment quelque chose qui l'a sauvée, qui allait la sauver, en fait, de toute cette souffrance qu'elle avait au fond d'elle. Pour elle, c'était un peu comme une thérapie. Et du coup, suite à ça, elle s'est mariée quand j'avais 5 ans avec un Témoin de Jéhovah. J'ai mal vécu ce remariage parce que pour moi, j'avais un père qui était présent mais qui s'occupait pas de moi. Et de l'autre, j'avais un beau-père qui par la suite était assez quand même très extrême dans son éducation. En fait, c'était mélangé éducation et religion, donc du coup c'était assez compliqué, mais voilà, déjà pour résumer le début de mon enfance, c'était pas facile.
Chaotique. Comme tu nous dis, donc ta maman a fait la rencontre d'un Témoin de Jéhovah. Est-ce que tu te souviens de ce changement? Est-ce que tu étais très petite, mais elle s'est fait, je sais pas comment on appelle ça, baptisée. À l'âge adulte. En fait, elle s'est convertie. Tu te souviens de ce changement ou aujourd'hui, est-ce que t'as réussi à prendre du recul sur ce qui a poussé sa décision, même si tu me dis que c'était aussi dû à son passé?
Oui. En fait, le changement, je le comprends maintenant. C'est sûr qu'en prenant du recul, en essayant de me souvenir de mon enfance, c'est... En fait, elle a vraiment complètement changé de comportement. C'est-à-dire que pour elle, forcément, tout l'enseignement qu'on lui apportait, c'était quelque chose qu'il fallait suivre, et qui était là que pour lui faire du bien. Donc en fait, mine de rien, sans le savoir, elle s'est coupée en fait, du monde, de tout le reste qu'il y avait autour. Elle était beaucoup moins ouverte, elle était devenue beaucoup plus stricte, et finalement, tout ce qui était à l'extérieur de cette religion, c'était le mal, en fait. Donc finalement, moi, elle a commencé à m'éduquer, à m'amener aux réunions quand j'avais 2 ans, 2-3 ans, et du coup, c'était le début.
Oui. Toi, du coup, t'as presque connu que ça, entre guillemets. Et j'imagine qu'avec l'arrivée de ce nouveau beau-père, comment ça s'est passé votre relation? Est-ce que lui, pour lui, il voulait prendre une place de père auprès de toi? Est-ce que vraiment, votre éducation était... Enfin, ton éducation, parce qu'il n'y avait pas encore ton frère, mais était guidée seulement par ce qu'il croit?
Mon éducation était vraiment guidée que par ça. C'était vraiment... ma mère et mon beau-père ont toujours que ça à la bouche, en fait. C'est vraiment... ils ont pas autre chose, en fait ils ont aucune autre pensée parce que pour eux c'est vraiment, ils se concentrent qu'à ça, et moi du coup j'avais pas le droit de côtoyer les camarades de l'école en dehors en fait des cours. Je pouvais pas aller à la cantine. Je sais que pendant jusqu'au lycée j'ai pas été à la cantine parce que en gros j'allais trop les fréquenter en fait, et il fallait vraiment pas que je les côtoie. Je sortais pas après les cours, je devais côtoyer que les petits enfants en fait qui étaient dedans. Et sauf que dans mes plus proches souvenir, souvenirs que j'ai jamais vraiment réussi à créer de réelles amitiés, en fait, quand j'étais enfant. Et c'est ça qui m'a beaucoup frustrée, parce que finalement, on nous empêche de côtoyer les autres personnes en nous disant que, ben voilà, que c'est pas des bonnes fréquentations et qu'il faut pas les fréquenter parce que sinon ils vont nous influencer vers le mal. Alors qu'en fait, à l'intérieur, ben, j'ai jamais vraiment eu des personnes qui m'ont comprise et ben, qui finalement étaient des réelles amies pour moi. Et du coup, dans mon enfance, ma mère était très maman poule. Mon beau-père m'a considérée toujours comme sa fille. Je dirais qu'il était, je sais pas comment expliquer, peut-être une sorte de possessivité, je sais pas, mais c'est il était assez dur avec moi et avec mon frère, parce que mon frère, il est arrivé, ma mère est tombée enceinte 3 mois après son mariage. Il était assez violent, en fait. Enfin, c'est-à-dire que mon frère, quand il faisait des bêtises, il le grondait, mais c'était la ceinture. Moi, j'ai eu le martinet. Enfin, il y avait plein de choses qui n'étaient pas cohérentes. Et en grandissant, en fait, très tôt, je me suis quand même rendu compte que ce que j'avais comme éducation n'était pas du tout cohérent avec la famille qu'on était, le modèle qu'on était censé être pour les gens autour de nous. Parce que mon beau-père, c'était vraiment quelqu'un d'exemplaire. Il avait très vite eu des privilèges, en fait, et des responsabilités dans notre congrégation. Et du coup, ben voilà, les gens allaient lui parler, ils lui confiaient ses problèmes. Il était vraiment doux, agréable, alors qu'à la maison, quand il travaillait, je sais qu'on était tellement contents quand il rentrait tard le soir, parce qu'on s'est dit, au moins, on est tranquille et on n'aura pas avoir de pression, avoir de crise, de dispute. Et moi, dans mes souvenirs, je sais qu'il y a eu des bons moments, hein, je remets pas tout en cause, parce que je les aime beaucoup. Mais il y a eu beaucoup de disputes, en fait. Dès le début de leur mariage, mon beau-père a été assez violent quand même, verbalement, et c'est surtout psychologiquement, en fait.
Oui.
C'est surtout ça qui est le plus dur, parce que c'est pas les coups qui étaient le plus important, c'est parce que c'est pas des coups vraiment qui donnaient. En fait, cassaient des assiettes, ils balançaient des bouquins. Moi, je me rappelle à m'être cachée derrière une porte et voir ma mère, en fait, je devais avoir même pas une dizaine d'années, voir ma mère se faire balancer des bouquins sur la tronche. Et moi, du coup, aujourd'hui, je me dis, mais j'étais tellement faible, je pouvais rien faire, en fait, je pouvais rien dire. Et
t'as assisté à toute cette violence.
J'ai assisté à tout ça, j'ai assisté à, en fait, à tout ce qui se passait chez nous, mais je me disais, mais c'est ça, en fait, c'est ça qu'on est censé représenter. On est censé être une famille spirituelle qui est censée montrer l'exemple, et alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passait à la maison, quoi.
Mais du coup, par rapport à ce groupement religieux, c'est quoi la particularité, justement ? Est-ce qu'il y a des traditions qui le caractérisent ? Est-ce qu'il y a vraiment un certain mode de pensée ? Parce que justement,
il y a des principes.
Ouais.
En fait, il y a des principes qui sont basés sur la Bible. Pour eux, la Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration de Dieu. Donc, en fait, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est censé être pour notre bien. C'est ça, vraiment, qu'ils appliquent à la lettre. Et dans une congrégation, il y a des anciens, donc c'est ceux qui sont vraiment au-dessus, qui font des discours, qui font en sorte que les principes et les enseignements soient bien appliqués par toute la communauté, du moins local. Et du coup, en fait, ces personnes sont là pour faire régner, entre guillemets, la loi et reprendre si jamais il y a des personnes qui font des erreurs, d'où le fait que ils excommunient une personne si cette personne n'est pas repentante et décide de plus, enfin, si, du moins si son comportement n'est plus en accord avec l'organisation. Ils suivent les principes de la Bible, donc à savoir ne pas faire les fêtes.
Pas d'anniversaire,
pas de Noël, pas de Pâques. La seule fête qu'ils ont le droit, c'est l'anniversaire de mariage, parce que le mariage, ça a été créé par Dieu. Donc du coup, voilà, on va dire que ça, ils ont le droit, mais pas le reste. C'est un peu compliqué à décrire, mais tout ce qui est à l'extérieur de cette religion, ils appellent ça le monde, en fait. Et l'intérieur, c'est la vérité. Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est rempli de mauvaises pensées, c'est dominé par Satan. Et
même les livres, les films.
En fait, pour eux, tout ce qui a trait à Satan, c'est-à-dire, voilà, il peut être partout. Pour eux, il peut être dans le rock, dans les marques de bière, dans les vêtements qu'on porte, dans le style vestimentaire, de pas se faire de tatouage, pas se faire de piercing, pas dire de grossièreté, enfin, rien qui peut vraiment être en rapport avec ça. Faire attention à tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit. Il faut pas lire de Harry Potter, il faut pas regarder tout ce qui a trait un peu au fantastique, en fait.
Mais c'est vraiment un monde à part.
Ah oui, c'est vraiment un monde à part. Moi, j'ai une anecdote qui m'a beaucoup marquée dans mon enfance. J'avais 12 ans et en fait, il se trouve que c'était les débuts d'Harry Potter et moi, j'avais très envie avec mon cousin de le regarder parce que tout le monde en parlait et du coup, j'étais fan, quoi. Et mes grands-parents nous les avaient offerts pour Noël, parce que, je fais une petite parenthèse, en fait, mes grands-parents, vu qu'ils m'ont toujours pris, en fait, j'avais en quelque sorte quand même une double vie, finalement, parce que, étant donné que c'est là où j'étais le plus épanouie, Eh ben, ça m'arrivait quand même d'être avec eux pour Noël, pour les anniversaires. En fait, heureusement que j'avais ça parce que même si je côtoyais personne d'autre à l'extérieur, ben, mes grands-parents, au moins, ils ont toujours été là pour moi. Et finalement, j'ai quand même pu avoir une partie d'épanouissement dans ma vie grâce à ça. Et donc, du coup, ils m'ont acheté ces DVD qu'on a regardés le soir même, en fait, de Noël. Et en fait, il se trouve que j'ai eu une paralysie de l'œil qui est arrivée. J'ai fait un syndrome de Brown, ça s'appelle. Mon œil était resté bloqué et l'autre se levait et je voyais double en fait quand je levais les yeux, ce qui fait que bah, j'étais mal et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Pendant une semaine j'ai rien dit, je regardais les gens en levant la tête pour pas voir double et finalement j'en avais parlé à une copine qui était fille aussi de Témoin de Jéhovah et du coup je lui avais parlé d'Harry Potter, que c'était trop bien, en plus moi j'aimais beaucoup prendre des notes quand j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire donc du coup j'écrivais des trucs sur le film, enfin j'étais vraiment à fond dedans et en fait elle a été tout dire à mes parents, ce qui fait que pour eux quand je leur ai dit que j'avais cette paralysie de l'œil parce que j'ai pas pu la garder pour moi, et ben ils ont fait tout de suite le rapprochement en fait, ils ont dit ah mais c'est parce que tu as regardé Harry Potter, pour eux le spiritisme ça a eu un effet sur mon œil en fait, sur comme si que c'était une peut-être punition. Pas une punition mais ouais c'est enfin en gros c'est conséquence, c'est ça ouais. La conséquence de mes actes en fait finalement après en avoir souffert beaucoup enfin dans toute ma vie j'en ai parlé à ma thérapeute qui m'a dit qu'en fait c'était dû à un choc émotionnel parce que les médecins du coup parce que pendant 6 mois cette paralysie j'étais sous traitement, j'allais à Rothschild sur Paris pour faire des examens tous les mois. Ben moi je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit lié à ça et c'est pas possible que je reste toute ma vie comme ça parce qu'en plus les médecins m'ont annoncé que j'allais être paralysée dans tout le corps, que ça débutait par les yeux et que ben que après avec le temps j'allais vraiment être paralysée à vie quoi. Donc moi c'était hors de question et dans ma tête j'ai vraiment culpabilisé et je me dis mais non je peux pas rester comme ça en fait. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi à craquer mon œil. Je sais pas du tout comment j'ai fait, mais j'ai craqué mon œil. Et les médecins, ils étaient tous là, ils m'ont filmé, ils étaient vraiment choqués. Et ma thérapeute m'a dit que c'était sûrement dû au fait que j'avais tellement de culpabilité en moi, tellement de... Je savais en fait que ça allait être mal ce que j'ai fait, qu'en gros, mon corps, il a réagi comme ça. Et je me dis, mais c'est tellement puissant la culpabilité qu'aujourd'hui, ouais. Je me suis dit, mais plus jamais j'ai envie de ressentir ça en fait. Plus jamais j'ai envie de culpabiliser, j'ai envie de revivre ça en fait, de devoir rendre des comptes à ces gens-là. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. Ouais. Et quand je lui en parle, ils sont encore convaincus en fait de tout ça.
Bien pour sûr. Eux, c'est vraiment. Ouais, ils sont encore dans leur vérité.
Ah oui, complètement.
Mais du coup, certaines personnes parlent justement des Témoins de Jéhovah comme une secte. Mais alors, dans certains pays, c'est considéré comme une secte, mais en France, pas encore. Je crois. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette appellation ? Qu'est-ce que tu en penses avec le recul ?
Moi, franchement, je suis d'accord avec cette appellation, avec le recul, parce que on nous dit, en fait, très clairement, oui, on n'est pas une secte, parce que tu peux en rentrer comme tu veux et tu peux en sortir à n'importe quel moment. Sauf ce qu'on nous dit pas, c'est qu'à partir du moment où on en sort, plus personne nous parle, en fait. Plus personne n'a le droit de nous parler, que ce soit nos amis proches ou notre famille très proche. Moi, ce qui est le cas de ma mère et de mon beau-père. En fait, socialement, on est coupé de tout. On a vraiment, mais plus personne. On doit tout reconstruire. Et ça a tellement un impact. C'est un impact psychologique. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vraiment sectaire, en fait. Parce que finalement, il crée une souffrance chez la personne pour faire revenir cette personne, en fait.
T'as l'impression d'être sous une emprise.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est t'es endoctriné, t'es sous emprise et du coup, les autres en fait, les témoins de Jéhovah, pour eux, ils ont pas d'amour inconditionnel pour les personnes. C'est vraiment pour Dieu cet amour inconditionnel. Donc ma mère, ce sera toujours d'abord Dieu qui passera avant moi en fait. Donc ces lois et ces principes, c'est de suivre ce que dit Dieu et Dieu leur dit de pas côtoyer des personnes qui se sont dit frères mais qui pratiquent la fornication, l'idolâtrie, tout ça. Donc en gros, moi je fais partie de ces personnes-là, donc je suis pas censée être fréquentable.
Oui, donc aujourd'hui tu arrives à prendre ce recul pour se dire que c'est pas simplement une religion entre guillemets comme une autre, mais qu'il y a vraiment... une emprise.
Il y a une emprise parce qu'ils font tout pour garder les personnes, en fait. C'est vraiment une manipulation. Ils sont vraiment très forts. Le truc, c'est que tout est binaire, en fait. C'est soit on sert Dieu et on est sauvé parce que eux ils croient à l'intervention divine, que Dieu va... En fait, aujourd'hui, les gens croient à une fin du monde, mais eux, c'est pas une fin du monde, c'est la fin de ce système de choses, en fait. Que Dieu va détruire toutes les personnes méchantes, tout ce système de commerce, de religion, de politique, tout ça. Et seuls les témoins de Jéhovah, en gros, sont censés survivre, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils vont prêcher de porte en porte, qu'ils vont sauver le maximum de personnes. Et moi, ce que je trouve vraiment malsain, en fait, c'est qu'ils se servent de la faiblesse des gens. Pour faire rentrer en fait les personnes dedans. Et ma mère, c'est ce qui s'est passé. Elle avait une vie vraiment, vraiment triste et remplie de souffrance. Et du coup, pour elle, c'était une libération en fait. Donc, elle a pas hésité. Et aujourd'hui, bah, ils se servent vraiment de ça. Et c'est vraiment ça que je trouve malsain en fait.
Oui, bien sûr. Et toi, du coup, par rapport à cette particularité, est-ce que tu t'es sentie différente de tes autres camarades? Comment ça se passait dans les moments où tu étais obligée, entre guillemets, de côtoyer d'autres personnes à l'école? Est-ce que t'as des souvenirs de tout ça?
Oui, je suis remplie de souvenirs par rapport à ça parce que j'ai très mal vécu justement le collège. La primaire, encore, ça va parce que... Bah parce qu'on joue avec les enfants, enfin, je veux dire, j'ai pas trop montré de différence, mais c'est plus au collège, en fait. Le collège et le lycée, parce que ben, je pouvais pas sortir avec les camarades quand ils m'invitaient à leurs anniversaires, ou même aller chez eux boire un café, ou enfin, faire des jeux, ou j'en sais rien, je pouvais pas, en fait. Très vite, j'étais pas une personne à fréquenter, et puis les rumeurs ont tourné que j'appartenais à une secte, parce qu'ils m'avaient vue dans la rue, de porte en porte, et forcément... Bah en fait, c'est dur, parce que quand on doit en plus aller prêcher, et si on tombe sur des camarades, on est censé être fier en fait, on est censé ne pas avoir peur, on est censé être, bah, être fier de ce qu'on est, sauf que moi, enfin, je me suis toujours dit que pour être convaincant, il faut être convaincu, et au fond de moi, j'étais pas convaincue, donc j'avais honte parce que c'est pas ce que j'étais au fond de moi, j'avais envie d'être comme les autres en fait, d'être acceptée comme tout le monde, et finalement je l'étais pas parce que les personnes me rejetaient à cause de ça, parce que finalement je les côtoyais pas à l'extérieur de l'école, je pouvais rien faire, je pouvais pas manger à la cantine, je pouvais pas aller avec eux, je pouvais...
Ouais, il y avait une sorte de fossé entre vous, j'imagine, même en primaire, on fait les cadeaux pour la fête des mères.
C'est ça, il y avait rien du tout, ouais.
Par rapport aux adultes, tu te souviens un petit peu des relations? Est-ce que les professeurs étaient au courant? Est-ce que les maîtresses étaient au courant, les maîtres? Est-ce que tu te souviens s'il y avait eu un lien par rapport à tout ça ou pas?
Pas au lycée et pas au collège. Peut-être quand j'étais vraiment petite, je sais que ma mère avait dit aux maîtresses, mais je crois que je devais vraiment être toute petite, que voilà, qu'en gros, elle expliquait à la maîtresse qu'elle m'inculquait dans telle religion, que si je voulais pas manger le gâteau d'anniversaire qu'il y avait à l'école, bah, qu'il fallait pas m'en vouloir parce qu'en gros, bah, on fêtait pas les anniversaires. Mais que si jamais elle voulait en manger, bah, que voilà, elle en mangeait. Mais en gros, voilà, si elle l'avait dit aux maîtresses, que de pas être surprise si je voulais pas manger du gâteau au chocolat, quoi, de l'anniversaire.
Ouais, ouais, c'est vraiment une enfance un peu à part. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation que tu as entretenue avec ton frère, du coup, enfin, je ne sais pas si ton frère, ton demi-frère, mais en tout cas, ce petit qui est arrivé et qui a toujours connu les témoins de Jéhovah, est-ce que lui, il en a une vision différente de toi? Combien d'âge vous avez d'écart déjà?
On a 6 ans d'écart.
6 ans, d'accord.
Mon frère, c'est assez récent en fait que je suis proche de lui parce que finalement pendant des années j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place parce que mon père a refait aussi sa vie, il a eu aussi une fille qui, bah, comme tu le sais, les filles sont très proches de leur père et les garçons sont très proches de leur mère. Et moi en fait, j'ai pas eu ça, du coup j'ai pas pu être proche de mon père. Finalement je me suis dit mais mon frère il a le droit à avoir ses deux parents, ma petite sœur elle a ses deux parents, elle est où ma place en fait? Parce que je me sentais pas bien chez moi, je me sentais pas du tout épanouie. Les seuls moments où j'étais épanouie, c'est quand j'allais chez mes grands-parents parce que je pouvais être moi-même. Et finalement, mon frère, j'ai l'impression que le pauvre, je lui en ai voulu alors qu'il avait rien fait, quoi. C'était compliqué un peu parce que je l'aimais, mais j'avais comme une jalousie un peu. J'enviais en fait le fait que que ma mère l'ait eu assez rapidement et que finalement j'avais plus ma mère pour moi. Déjà le fait que voilà, s'est mariée, pour moi, on prenait ma mère en fait. Et là, mon frère, il est arrivé un an après et du coup, c'était pas facile. J'ai mis du temps à l'accepter et on se disputait beaucoup quand on était petit. D'ailleurs, quand je suis partie de la maison, ça lui manquait, nos disputes. Aujourd'hui, je suis très proche parce qu'il a quitté, cette secte il y a 3 ans. Mais du coup, lui, il la voit encore différemment, c'est-à-dire qu'il est encore perdu. Pour en parler encore récemment avec lui, il est encore perdu, il sait pas trop ce en quoi il croit. Je sais qu'il, lui, il a envie de se faire intégrer parce qu'il avait des amis à l'intérieur, il avait des copains.
Lui, il est parti de lui-même ou...
C'est surtout par rapport à la cigarette, tout ça, il avait commencé à fumer et du coup... ça collait pas du tout avec... En fait, il s'est fait baptiser très tôt, il s'est fait baptiser à 15 ans. Moi, je me suis fait baptiser, j'avais 16 ans et demi. En fait, quand on grandit dans l'adolescence, c'est la normalité, en fait. C'est logique de se faire baptiser. Et on nous met un peu une pression, en fait, sans vraiment qu'on le comprenne que c'est vraiment une pression. Mais c'est logique, en fait. C'est une évidence, il faut qu'on se fasse baptiser dans l'adolescence. Alors que moi, je leur ai toujours dit, mais je comprends pas, si vous voulez suivre l'exemple de Jésus dans la Bible, il s'est fait baptiser à 30 ans. Hein, donc, au pire, pourquoi est-ce que vous mettez une pression énorme aux jeunes, en fait. Et aujourd'hui, j'ai compris que les jeunes, c'était vraiment eux qui allaient prendre la relève, en fait, qui allaient continuer de pouvoir gérer cette organisation. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent vraiment une pression sur les jeunes aujourd'hui et qu'ils ont vraiment peur de les perdre, en fait, parce que pour eux, il y a tellement d'influence autour qu'il y en a de plus en plus qui quittent parce que c'est pas vivable, en fait, et qu'on nous fait porter un masque et qu'on n'est pas nous-mêmes. Et mon frère aussi, c'était exactement comme moi, en fait. On a vécu tous les deux la même chose, l'extrémisme de mon beau-père et du coup, le côté éducation assez strict, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il est encore perdu parce qu'il y croit un peu, mais ça l'énerve vraiment, en fait.
Il a du mal à trouver son identité.
Ouais, il a du mal à trouver son identité parce que quand on grandit dedans et que d'un coup on est un peu livré à nous-mêmes, c'est compliqué, en fait, de trouver, de trouver son équilibre. La preuve, j'ai fait 2 thérapies dans ma vie, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus, j'ai même plus ma mère, je peux même pas avoir de contact avec elle. Pour elle, c'est le choix que j'ai fait, en fait, de me mettre avec mon conjoint sans me marier, qui fait que j'ai été excommuniée et qui fait qu'aujourd'hui, ma mère, du coup, n'accepte pas du tout mon choix.
Oui, parce que ça s'est passé comme ça, en fait.
Ouais.
Toi, aujourd'hui, tu fais plus partie des témoins de Jéhovah, mais ça s'est passé comment? Tu as rencontré ton conjoint à quel moment? Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai rencontré mon conjoint. C'était un ami d'enfance, en fait, que je connaissais depuis que j'avais 5 ans. Mais on s'était vraiment perdu de vue. On n'a jamais vraiment été amis très proches. Mais on s'est revus il y a plus de 2 ans, en fait. On a chacun vécu une rupture. Ça nous a vraiment rapprochés à ce moment-là. On s'est trouvé énormément de points en commun. Et en fait, il est arrivé vraiment pile dans la période où moi, je commençais à plus du tout être pratiquante et à me poser énormément de questions. Parce que quand j'étais adolescente, je me posais énormément de questions, justement, par rapport à tout ça. Mais j'avais pas la réponse à mes questions, parce que quand on a des doutes, c'est pas bien, en fait. Dans la religion, on peut pas avoir de doutes, on peut pas se permettre d'avoir des mauvaises pensées.
Ouais, donc remettre en question.
Voilà, on peut pas remettre en question. Donc j'ai tout gardé pour moi. Et finalement, j'ai un peu vécu comme une deuxième adolescence à ce moment-là. Je me suis posé plein de questions. J'ai voulu vraiment... je suis redevenue moi-même, en fait. Et il est arrivé pile à ce moment-là et il m'a aidée, en fait, à comprendre tout ça.
Lui, il était témoin de Jéhovah ou pas?
En fait, il a grandi dedans, mais il a arrêté quand il avait 16 ans. Donc, il a échappé belle, on va dire, au baptême. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas le même problème que moi... aujourd'hui, de plus pouvoir parler aux autres. Mais en gros, voilà, donc du coup, moi, étant donné que je voulais pas reproduire la même erreur et me marier, en fait, pour faire plaisir à cette religion, ou du moins à condition, moi, je voulais pas faire ça, donc je me suis dit, on se mariera quand on aura envie de se marier, et parce qu'on a envie de le faire tous les deux, en fait, pas pour faire plaisir à une religion ou pour respecter un principe de Pierre-Paul Jacques. Et du coup, aujourd'hui, je fais plus partie de ça, et c'est franchement, j'en ai appris beaucoup plus sur la vie depuis que je suis plus dedans qu'à l'intérieur. Parce qu'on nous ferme, en fait, on nous empêche d'apprendre des choses sur la vie, d'apprendre, de s'intéresser à plein de choses, parce que pour eux, tout ce qui n'est pas explicable, c'est paranormal, en fait. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses extraordinaires à apprendre, en fait, sur la vie, sur la spiritualité, parce que pour moi, du coup, j'ai compris qu'on peut être spirituel sans appartenir à une religion. Ah. C'est cette relation qui m'a, entre guillemets, sauvée, en fait, et ma rupture aussi, du coup. Ma rupture, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et c'est ça qui m'a aidée à...
Oui, même si j'imagine que ça a été un passage
très compliqué.
Difficile, c'est... sorte de renaissance, tu arrives dans un monde que tu connais pas, et du coup toi tu n'as plus de contact même avec les amis, même si tu me disais qu'il y en avait peu, mais les connaissances
J'ai qu'une personne, en fait, qui est très ouverte et qui a toujours été là pour moi, en fait. On s'est connus au moment, en fait, on a tous les deux aussi vécu une rupture à ce moment-là, et elle a toujours été là. Pour elle, une amitié, il n'y a pas de condition. Donc, du coup, elle m'a dit, peu importe ton choix, je serai toujours ton amie, en fait. Oui. Donc,
vous devez vous voir cacher ou est-ce que c'est assumé?
Oui. Ouais, c'est ouais. Elle peut pas s'afficher ouais. sur les réseaux. Ouais, voilà, quoi. Donc, sinon, on lui prend la tête et... parce qu'on est vraiment épiés, en fait. Moi, avant même de sortir, j'étais jugée, j'étais critiquée, j'étais pas une bonne personne. J'étais vraiment, genre, pour eux, je partais en live, en fait. Donc, alors qu'en fait, j'essayais juste d'être moi-même et juste de plus appartenir à cette religion, en fait.
Bien sûr. Et aujourd'hui, comment tu te sens?
Alors, aujourd'hui, c'est un peu mitigé parce que je me sens bien. Je me sens vraiment bien, je me sens moi-même en fait, je me sens libre, je me sens plus jugée, je culpabilise plus. J'ai vraiment plus du tout, mais alors plus du tout, le réflexe de me dire « oh là là, mais là-haut on me voit en fait ». J'ai plus du tout en fait ça. J'ai plus le réflexe de me dire ah, mais alors si Jésus était là à côté de moi, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Parce que voilà,
c'est avec ça que t'as grandi.
C'est avec ça que j'ai grandi, quoi. Il faut qu'on soit toujours une bonne personne en fait. Il faut toujours qu'on essaie de se dire mais là dans telle situation, si Jésus avait été là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Enfin, c'est vraiment une pression en fait. Et moi vraiment le mot qui résume ma vie c'est la culpabilité. Et aujourd'hui j'ai plus ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée, en fait, finalement. Ouais. Pour eux, ils pensent que je suis morte, parce que ma mère m'a clairement dit que j'étais comme morte à ses yeux. Mais moi, je me sens vive, en fait. Ouais. J'ai ouvert les yeux. Alors, pour eux, encore une fois, c'est Satan qui m'a ouvert les yeux. Mais moi, je suis vraiment... je me sens vraiment bien. Mais je souffre quand même de plus avoir ma mère, en fait.
Bien sûr. Oui.
Voilà.
Parce que quelque part... Même si j'imagine qu'il y a une part de toi qui lui en veut, ça reste...
Mais je sais que j'en veux, en fait. Je sais que je lui en veux. Et elle en souffre, en fait. Mais du coup, je comprends pas parce que... Moi, je lui dis... Je fais que lui dire par message. Je lui dis, mais tu comprends qu'on souffre toutes les deux. Je lui dis, en quoi un Dieu qui est censé être amour permet ça, en fait? Ou peut permettre ce genre de situation? Je lui dis, moi, je comprends pas. Une mère, elle, c'est censé avoir un amour inconditionnel pour ses enfants. Et c'est pas le cas, en fait. Donc en gros, t'es prête à souffrir toute ta vie pour ne pas voir ta fille, en fait.
Ouais, c'est difficile pour toi de concevoir qu'elle est encore tellement dedans qu'elle n'arrive pas à prendre le recul nécessaire que toi t'as fait, parce que t'as déjà fait un chemin qui est énorme et peut-être qu'elle ne fera jamais.
Non, si... je pense qu'elle ne le fera jamais parce que pour elle, Dieu lui a apporté tellement en fait, dans sa vie que c'est Dieu qui a choisi avant ses enfants. Donc peu importe le choix que je fais...
Et toi aujourd'hui, en tant que jeune femme, peut-être, je ne sais pas si tu veux des enfants, mais est-ce que ça te fait peur de reconstruire un foyer ou est-ce qu'au contraire, tu sais aujourd'hui ce que tu veux, ce que tu ne veux pas?
Alors, c'est une bonne question. Pendant très longtemps, je ne voulais plus d'enfants. Enfin, je ne voulais pas d'enfants tout court. Dans ma précédente relation, on n'était pas du tout fait pour être ensemble, donc je savais que ça n'allait pas durer, en fait, dans l'avenir. Donc, je ne ressentais pas du tout l'envie d'avoir un enfant parce que je me suis dit, mais je vais reproduire, en fait, comme mes parents et je n'ai pas envie qu'ils souffrent parce que moi, j'en ai énormément souffert. Parce que voilà, dans toute ma vie, j'ai l'éducation extrême que j'ai eue, c'était dur, mais en plus de ça, j'avais pas mon père qui était là. J'avais pas mon père qui était là pour s'imposer un peu, pour me protéger, en fait. Donc voilà, je voulais vraiment pas d'enfant. C'était vraiment pas quelque chose qui était prévu au programme. Tout a changé quand j'ai rencontré mon conjoint actuel. Pour moi, je me suis dit, avec lui, j'ai envie de fonder un foyer, en fait. Là, j'ai vraiment envie de... Ben, finalement, d'apporter à mon enfant ce que moi, j'ai pas pu avoir. Mais j'ai envie que mon enfant, il sache que ben, je serai toujours là pour lui, peu importe les choix qu'il fait dans sa vie. Et j'ai envie de connaître aussi ce bonheur de donner la vie.
Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Ben, de continuer d'être épanouie, ben, d'apporter du bon autour de moi, parce que finalement, ben, j'essaie tous les jours d'être une meilleure personne et de faire ce que je peux pour être positive malgré tout ça. Et, ben de, voilà, et de réussir à être heureuse en fait, au quotidien.
On te le souhaite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires. Et moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.